Yola Boker Tov et Shabbat Shalom. D'accord, 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 on se calme, Yatikoujik. On est aujourd'hui le 12 okay, du mois de Adar, Bet, et le 22 du mois de mars. Nous avons un shiur ce matin pour une grande tzadika achetée par, vendredi matin, c'est ça, achetée par Shulamit Ederi. Bracha et Bracha Batsacha Shulamit Ederi et Yekara, et pour toute la famille, pour les 11 mois de leur maman, l'élévation de son âme, qui s'appelle donc Mazal Isa Bat Alia, Aleha Ashalom, et aussi pour leur papa Yehuda Ben Izal, Aleha Shalom. Leurs parents recevaient beaucoup chez eux d'invités, beaucoup de chesed, beaucoup de bonté, toujours le cœur ouvert, mamash. Ils ont laissé 3 générations dans la Torah, donc on est certain que le reste continuera son chemin à la Torah, Kol HaKavod. Leur maman habitait dans les montagnes du Maroc. C'est de chez toi là-bas, au Maroc. Comment? Les montagnes du Maroc. Okay.
Pas de chez moi, ça.
Pour aller au Mikvé, elle brisait la glace pour se tremper. Donc c'est en hiver.
Elle est chez moi.
Elle ne s'est jamais découverte la tête.
Vous allez Mikvé tout le temps. Casser le kérahé.
Ça manque aujourd'hui. Yeshesh Od. Il y a ma femme. Moi, quand elle va prendre un bain, je lui mets de la glace. Non, Balbemet, c'est extraordinaire cette Misirut Nefesh qu'on lit d'ailleurs dans le livre. Souvent, j'ai fait un cours sur ma grand-mère et j'ai fait verser beaucoup de larmes en faisant ce cours parce que beaucoup de gens m'ont dit, je croyais que vous parliez de ma grand-mère. Beaucoup de gens se sont reconnus dans l'identité de ces femmes d'avant qui étaient tout simplement pures et exceptionnelles. Le modernisme a volé quelque chose d'authentique à notre génération. L'authenticité, on est devenus des acteurs de la vie, et ça fait la peine de lire des choses comme ça, et qu'on est dans la nostalgie un petit peu de ce genre de personnages qui ne réfléchissaient pas, qui faisaient les choses telles quelles. Parce qu'il faut les faire, bet mimout, exactement, sans calcul, sans demander en contrepartie de ça quelque chose. Ça fait de la peine. Bon, en tout cas, on continue un bon zibouk pour ses petits-enfants et tous les célibataires. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Brech Kol Zivug Agun, Bimyuchad. On sera aussi à Abigail, Bat et Myriam. Quelqu'un. La protection aussi de Shal Kol Chayalenu Va'am Israël. Libération de tous les otages en bonne santé. Bezrat Hashem. Ve Kol Amishpacha Yekara qui ont acheté ce shiur. Alors on commence tout de suite. Alors je voulais faire un cours sur autre chose, mais maintenant que j'ai vu qu'il s'agissait d'une grande tzadika, eh bien, on va parler des tzad kanyot. Ah, voilà, je change de programme. Moi, j'avais prévu de faire un cours sur ce livre, je suis prêt avec moi. Non, on va parler d'Esther Amalka, alors, puisque je vois qu'il s'agissait de quelqu'un de grand. On va parler de quelqu'un de très grand. Alors, c'est vrai que dans la Torah, dans la Bible, on n'a pas beaucoup de livres. On en a que 2, si j'ai une bonne mémoire. Sur les 24 livres du Tanakh, on n'a que 2 livres, même pas 2 livres en réalité. On a un livre et un passage important sur des femmes juives. Alors, au niveau des femmes, on a Chaye Sara, c'est vrai, un parasha de Chaye Sara, qui est un peu une arnaque, on peut le dire, puisque Chaye Sara, ça comprend 10% à peine de toute la parasha. C'est vraiment la première montée, Chaye Sara, est morte, hop, c'est plus rien à voir. Puis après, c'est le Zivug Agun. De là, d'ailleurs, il y a un message qui est fait, c'est que quand des fois des gens n'arrivent pas à se marier, et qu'on apprend la mort de quelqu'un, d'un proche parent, c'est parce qu'il est parti ouvrir la porte de l'autre côté. Des fois, ça bloque de ce côté-là. Et un parent qui part de ce monde, et en haut, il prie pour que cette personne en bas se marie. Donc après la mort de Sarah, c'est le mariage de Yitzhak. On trouve le zivouk de Yitzhak. Pourquoi? Parce que Sarah est morte. C'est pas que Sarah faisait obstacle, c'est qu'il fallait ouvrir la porte de l'autre côté. C'est comme ça des clins d'œil de la Torah très sympathiques à étudier, Ezrat Hashem. Ce qui fait que quand vous n'arrivez pas à trouver zivouk Agun, vous pouvez aller sur la tombe de vos parents et leur demander que d'en haut, ils ouvrent la porte du bonheur. Le vrai bonheur, parce que ceux qui se marient veulent divorcer, ceux qui n'ont pas de machin, ils veulent trouver quelqu'un, ça y passera aujourd'hui. C'est un monde de ouf. Donc, il y a Chaye Sara, effectivement. On a un passage qu'on retrouvera dans Shoftim, dans toute la Torah, qui reparle d'une héroïne incroyable, j'ai nommé Déborah, donc Dvora en hébreu, pas Déborah.
Myriam aussi,
non? Non, Myriam, elle fait partie de quelques psukim. Myriam, on la voit dans Shemot un petit peu, puis après on retrouve dans Be'alotecha. Hein? Alors on voit les Pnot Tselofrad, mais ce n'est pas un livre. C'est des passages. Là, on parle vraiment de livres. Il y a un livre qui est exceptionnel, c'est le livre d'Esther. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ce livre-là porte son nom à elle. On n'a pas le livre de Sarah, ni de Rivka, ni de personne. Enfin, le point que j'ai... Alors, il y a fait. Alors, la différence avec Ruth à Moavia, c'est que elle n'est pas née juive. On parle de l'essence juive. Le livre de Ruth, c'est le livre de la conversion. C'est le livre d'une non-juive qui devient juive dans l'histoire. Et tu as raison de spécifier. Mais il est adapté à qui ce livre ? Explicitement à celui qui se convertit. Alors bien sûr, nous on le lit en l'honneur du roi David à Shavuot, mais c'est le livre sur lequel l'examen se fait pour les convertis. C'est bien ? Parce que Ruth ne peut pas, dans l'absolu, servir d'exemple pour tous, pour une raison simple, c'est qu'elle vient d'un monde non-juif vers un monde juif. Une des brachot qu'on est certain qu'il n'a jamais dit Ruth à Moabia, c'est Shelo Asanigoya. Elle ne peut pas le dire. Donc tu as raison de le dire, le livre de Ruth. Mais Ruth, je parle des gens qui sont nés dans le judaïsme, même si Baruch HaShem est très trop chez nous, hein, bien sûr. Elle fait partie des grands d'Israël. Asbanien, Betsem, pourquoi est-ce qu'on a le livre d'Esther et pourquoi on n'a pas le livre des autres qui étaient très grandes, comme Yaël, Yehudit, qui ont fait des actes? Bon, la première réponse, c'est qu'elle a sauvé le peuple d'Israël. Ça veut dire que Esther, Shkula, Geneged, Kolam Israël. Si Esther n'était pas partie voir le roi et qu'elle n'a pas pris sur elle cette Nisrut Nefesh, alors il est évident que il se serait passé des choses, comme dit Mordechai, nul n'est indispensable, et le cimetière est là pour le prouver. Hein. Mais de l'autre côté, Yeshba, Ishiut, Yotzet, Dofen. Et c'est ce que j'aimerais un peu voir avec vous, en nous promenant un petit peu dans les Midrashim, qui sont très nombreux, et qui sont très élogieux à très critiques. Très, très critiques. Il y a de tout. Il y a même des Midrashim que vous ne savez pas, sur Esther, qui font d'elle d'une tzadika, ou alors une fille complètement chilonite, puisque Esther était à la base un nom d'Avodazara. C'est-à-dire ? Donc le nom d'origine de Esther, c'est Hadassa. Puis elle a changé de nom, elle a pris le nom d'une idole à l'époque. Hein ? Elle fait Mehod, Ishtar. Elle fait, d'où tu sais ça, toi ? D'où tu sors ? Viens à côté de moi ici, viens. Absolument. C'était la déesse de
la lune.
Absolument. Et bien justement, c'est pour ça que Esther est cachée, mais qu'elle se dévoile à la lumière, dans l'obscurité. C'est elle qui, justement, fait Mehod, on trouve un peu de pensée. Exactement, on la compare à l'aurore, parce que Ishtar, justement, c'était une Avodazara qui servait, surtout en Perse, à comment dire, les idoles de la lune, quoi. Et donc, elle appelait Esther.
Le dieu Marduk.
Le dieu
Marduk.
Le dieu Marduk, c'était son mec. Et leurs enfants Mordechai. Alors, c'est marrant que tu dis ça aussi.
C'était
deux dieux babyloniens et Mordechai est aussi un nom d'Avodazara à la base.
Hein?
Et c'est pour ça, l'une des raisons pour laquelle. Je vois que vous êtes chaud là de tous les côtés. Laisse-moi juste finir mes phrases. On voit que c'est un cours Mila Shamaïm. Mordechai et Esther, son nom Nochachamim, ce sont deux noms d'idoles. Il y a plus que ça encore, il y en a qui disent que Esther ne mangeait même pas kasher. L'Ikhlal. Donc, Yeshbo, si vous me laissez faire mon cours, enfin, que je suis en train de créer en même temps que je vous parle, puisque je n'ai pas du tout prévu de parler de ça ce matin, peut-être qu'on va y arriver. C'est là. Il y a beaucoup de déotes, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans plein de Midrashim, plein de Parchanim, ce serait trop long à expliquer. Bon Etril. Pourquoi, ben, je voulais parler de ça? Ben, justement, c'est parce que Esther comprend toutes les juives. Le livre d'Esther, Megillat Esther, vient nous faire découvrir, parce qu'on aurait pu l'appeler la Megillah de Mordechai. C'est là. D'ailleurs, une raison pour laquelle Mordoc, justement, ce fameux dieu, on l'appelait Mordechai et Yehudi, c'est parce que le nom de Mordechai prêtait à confusion. Mor, la Gemara nous dit où est-ce que ça vient, c'était les encens. Mor, les 11 encens s'appelaient Mor, parce qu'ils sentaient bon. Aman ne sentait pas bon, lui sentait bon. Alors, Esther est née en Assus, comme vous l'avez bien compris, elle est la nièce de Mordechai, et comme Avraham a épousé sa nièce, de la même façon, Mordechai, Hayehoudi, chef du Sanhedrin à l'époque, et général en chef de l'armée de Perse, il avait deux rôles, selon le Midrash, il était d'un côté, quoi? Ben, comme Avraham s'est marié avec sa nièce, par contre, on ne peut pas se marier avec sa tante, Alpitora. La tante, on ne peut pas l'épouser, de peur de te faire planter, tante. C'est pas grave. Mais par contre, on peut tout à fait épouser sa nièce, un baiser Baria Bichlal. Je crois même que j'ai déjà fait un mariage où j'avais marié un oncle avec sa nièce. Un baiser, bon, c'est problème, c'est après les problèmes sanguins. Après les enfants, ils sont un peu marouges. Mais sinon, moutard. Badaché de moutard. Donc Mordechai épouse sa nièce et il se passe des choses bizarres. Donc vous l'avez bien compris. Cette Megillat Esther va nous montrer qu'une femme qui est mauvaise peut apporter la rédemption. Une femme qui est bien peut apporter la rédemption. Qui est la femme mauvaise qui va apporter la rédemption et qui meurt? Vashti. Donc Vashti est une mauvaise femme qui meurt. Pourquoi? Elle est égocentrique, elle pense qu'à elle, elle veut du succès, n'a aucune pudeur. Elle fait travailler les filles juives tous les Shabbats intégralement nues pour montrer sa puissance et son immoralité. Très bien. Et nous avons une femme qui, elle, de l'autre côté, s'appelle Esther. Alors quand on parle d'Esther, on parle d'une Neshama Yotzet Dofen. Esther est exceptionnelle sur tous les domaines. Par exemple, quelque chose de bizarre. Si on fait une comparaison, qui est comparé souvent à Esther dans la Torah?
Sarah.
Bonne réponse, ça fait plaisir. 127 provinces, 127 ans. Elle a eu un enfant, Esther. Koresh, vous vous rappelez?
Darius.
En français.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle aussi, parce qu'elle est comparée à Sarah, parce qu'elle est mariée avec. C'est une nièce qui est mariée avec.
Alors, exactement, parce qu'on est à l'heure, Abraham avec sa nièce, on est avec sa nièce. Et ce qu'elle est très particulier, Esther, c'est qu'elle va avoir un enfant en fin de compte. La Gemara nous dit. Comment se fait-il qu'elle a osé se marier avec un impie, en plus avec un incirconcis? Alors sur ce, il faut savoir beaucoup de choses. Quand je vous ai dit que Esther, c'est une personnalité spéciale, c'est que selon le Rama de Pano, dans son livre de Gilgulé Neshamot, il y a un nitzotz féminin et masculin en elle. Elle est masculin-féminin. Elle est la réincarnation de Tzipora, et elle est la réincarnation du roi Shaoul. Ketzadou. Tzipora, explique le Chachamim, qui a sauvé Moshe Rabbeinu dans le secret de l'histoire du serpent qui a voulu l'avaler parce qu'il n'avait pas circoncis ses deux fils. Vous vous rappelez tout ça au Malon? Et quand est montée Tzipora, Tzipora elle a été répudiée, elle s'est mise de côté pour qu'il ait libéré les enfants d'Israël, elle s'est mise de côté parce qu'il est parti chercher la Torah, elle s'est mise de côté, elle s'est mise de côté, elle s'est mise de côté, bah, sauf Tzipora, elle s'est barrée comme un oiseau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle d'elle. Quand elle est montée dans le ciel, Chazal dit que Tzipora portait plainte devant le Beit Din. Elle a dit, exactement, j'ai été une femme aussi pure que Moshe Rabbeinu. Enfin, comme ça, dit Chazal, elle faisait la même taille que lui, elle était Kedosha comme lui, elle a sauvé Moshe Rabbeinu quand elle lui donnait à manger. La totale, on ne parle pas de moi. Chayecha lui a dit à Kadosh Baruch Hu, je te réincarnerai et te dévoilerai au monde. Mizot, Esther. Pourquoi Dafka le roi Shaoul? Parce que le roi Shaoul a commis l'erreur fatale de ne pas tuer Agag, roi des Amalécites, et il a laissé vivre son troupeau. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur de la gouva, du peuple et des soldats. Et puis en même temps, il a voulu faire quelque chose de grandiose, au roi Shaoul. C'est qu'il a voulu prendre ce qu'il y avait de plus impur chez Amalek, plus décent, plus bas que Amalek, c'était les animaux, qui en réalité étaient les Amalécites qui se transformaient en animaux quand ils voyaient qu'ils perdaient la guerre. Et il a voulu les sacrifier pour dire que si je suis capable de rendre une épine une rose, c'est que j'ai réussi ce qu'il y a de plus grand que les autres. Seulement, Dieu ne lui a pas demandé de le faire. Résultat des courses, il s'est fait virer. Mais il y a une autre Déa qui dit qu'il n'était pas digne pour le roi Shaoul de rentrer dans la boue des animaux pour aller les tuer. Dieu lui ordonnait de tuer les Amalécites et les animaux. Rien ne devait rester vivant. Ok? Dans Shmuel Aleph. Qu'est-ce que fait le roi Shaoul? Il est roi. Il ne trouve pas digne que le roi il doit rentrer avec une épée maintenant et tuer des animaux. Dans le ciel, comme ça dit le Rama de Pano, il dit « Rivu oto likenes la botte. » Puisque tu n'as pas voulu rentrer et que tu as été méticuleux comme une femme, tu ne peux pas rentrer, va te laver. Prends la boue, va te laver. Achon. Chayecha, que tu es galgel. Il galgel, mais Esther Amalka. Pourquoi? Parce qu'elle, à la fin, est obligée de rentrer dans les draps sales d'Achashverosh. Tu n'as pas voulu rentrer pour aller tuer les animaux. Chayecha, que tu ne seras plus pas un animal. C'est là. Echa de machine. Donc on voit chez Esther, Bémet, une figurine, Yotzet Dofen, qui a du masculin féminin. Et sur ce, je vous invite un peu à rentrer à l'image de cette grande tzadika pour qui on fait le chiot et son mari, sur l'identité d'Esther. Alors Esther, on la voit comme étant la fille parfaite. Elle est parfaite, mais elle est bizarroïde. Parce que si on s'en réfère, si on me laisse finir, je vais répondre à tout, ça va vous dire. Tout simplement parce qu'on ne parle pas ici de... Tu sais, quand tu parles d'Esther, tu imagines Belle Deschamps. Super fille, super belle, super...
princesse, quoi.
Une princesse gentille, Hamouda, 80 balais. C'est Mémé Giget. Elle est de couleur, c'est la Ron. Elle a un enfant, comme je dis, les comparaisons avec Sarah Menou, vous m'avez coupé la parole, donc Sarah a eu un enfant très tard. elle a un enfant très tard aussi de son côté. Elle a épousé son oncle. Il y a des similitudes au fait que Agar est la servante de Sarah et elle va prendre une Sheda. Vous savez que dans la Kabbale, on nous apprend que dans chaque âme, il y a un ange et un démon. Et Esther connaissait tellement bien la Torah qu'elle était capable de sortir le Sheda qui était en elle pour aller rejoindre Achashverosh. C'est pas Stam Sheda qu'elle a appelé Yanti, va là-bas. Non, pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle a fait sortir sa Sheda. C'est-à-dire qu'en nous, il y a une Vashti et il y a une Esther. Il y a un Achashverosh et un Mordechai. C'est à toi de faire le travail pour libérer le bon qui est en toi. Et quand tu arrives à un très très haut degré, on voit qu'elle avait une totale maîtrise d'elle-même, puisque le Zohar Kadosh, je ne me rappelle plus dans quel on l'a vu tout ça, il dit que Bémet, elle a fait sortir sa Sheda à l'intérieur d'elle, en chacun de nous. Pourquoi? Parce que vous savez que nos Chachamim nous disent que quand l'homme a été créé avec le microcosme de chaque création. Il y a de nous, du Gan Eden, du Geinam, de tout. Il y a de tout, de tout. Et aussi, il y a aussi des démons. Il y a aussi un démon. C'est bien. Mais la reine qui est toute sa misée, Esther Amalka, Zarta, Léavi, Yeled, Begil, Mevugar, Meod, puisqu'elle est rentrée à la fin dans les draps d'Achashverosh. À chaque fois, elle a envoyé Shasheda, juste à la fin où elle est venue elle-même, quand elle a posé la main sur le charvit, vous savez, sur le sceptre. Le roi, il l'a vu, après, il lui a dit, goulou, goulou, paka, paka. Ça veut dire, Anirotsa Otar, je te désire. Et à ce moment-là, elle est venue elle-même. Elle ne peut pas envoyer la Sheda. Elle est partie avec elle et elle l'a mise enceinte. Et c'est pour ça qu'elle dit une phrase très secrète. Kacher avadeti, avadeti. Mazetomeret, kacher avadeti, avadeti. Très grand secret là-dessus. Si je suis perdu, ben je serai perdu. Ba olamazé ou ba olamaba. Lama, parce qu'une femme qui trompe son mari, en plus consciente de le faire, elle a chalek l'olamaba, avadeti dans l'olamaba. Et dans ce monde, elle est obligée de divorcer son mari. Donc, avati baolamazev, avati baolamaba. Kacher avati, avati. Pourquoi? Elle est encore mariée avec Mordechai. Il y en a qui disent qu'elle lui a donné le guet. Maintenant, sur le domaine technique, Emet, étant donné que c'est un non-juif, le chavle est de Garesh, elle n'est pas obligée de divorcer. C'est encore un domaine technique à propos de la Megillah. Mais, Esther, elle a un côté très pacifiste, très obéissante. Son mari lui dit, son oncle lui dit, ne dévoile pas ton identité. Elle ne dévoile pas son identité. Et Chazal nous apprend quelque chose.
C'est son accord, non?
Et Baro, non. Alors écoutez bien. Écoutez bien, je voudrais arriver à quelque chose d'important avec Esther. Esther, Amalka, tout le monde, comme ça nous disent les Chachamim, quand il la voyait, il disait, ah, c'est une Tunisienne. Elle était un peu large. Elle était un peu dure. Ah, c'est une Marocaine. Elle était gentille, c'est une Algérienne. Mapitom, c'est une Éthiopienne. Je n'ai pas très bien compris comment. Ma pitonne, c'est une Française. Quand elle parle, elle dit Slicha, Efchar, Bevakacha. Il y en a qui disent Ashkenazit. Il y en a qui disent elle était Polanite. Il y en a qui disent elle était de Russie. Chaque pays, quand il voyait Esther, elle regarde. Elle est japonaise. Déjà qu'on l'a rendue vieille et verte, elle est japonaise maintenant. C'est intéressant. Mais Chazal nous dit que chaque personne qui regardait Esther pouvait jurer, mettre sa main dans le feu, qu'elle était de son origine. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous raconter ça? Quand je dis la Torah, c'est la Torah orale. Okay? Pour nous dire que Esther, c'est l'ensemble de toutes les femmes du monde. Esther représente l'entité de toutes les perfections de ce monde. Elle est mouchlemet. Esther Amalka, Ibn Adam, Yotzet Dofen. Pourquoi? Parce qu'elle cache l'identité cachée de Dieu en elle. Du mot Esther. Comment on écrit le mot Esther? Aleph, Nachon, Samer, Taf, Resh. Fémerod. Quelle est la lettre qui n'apparaît pas dans la Torah au début? On attend, Aleph. C'est le Aleph, Bereshit. Elle est la lettre Aleph de Dieu qui est cachée dans l'histoire. Aleph est Seter. Vous savez, Seter, caché. Le Aleph est caché. C'est le dévoilement d'Hachem, non pas par le Yud Kevavke qu'on ne trouve pas dans la Megillah, mais par le Aleph qui inclut en lui le Yud Kevavke. Yud, Vav, Yud. C'est là, ça le pique Kabbalah, bon, c'est juste une parenthèse importante pour comprendre que Esther, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'elle passe par plein de commentaires. Il y en a qui disent qu'elle a mangé kasher, qu'elle n'a pas mangé kasher, qu'elle a fait ceci, qu'elle n'a pas fait cela. Mazé. Il y a des psukim qu'il faut bien analyser. Vous verrez que de commentaire en commentaire, on se balade, on se dit, mais attends, ma Corée, alors ma pita, elle mangeait que des légumes, elle mangeait que ceci. Elle lui demandait d'aller acheter spécialement ça, elle a jeûné. Parce quoi? Alors c'est une sadika gmoura, et de l'autre côté, elle y tombe. Quelle? Esther, c'est l'ensemble de l'humanité qui en est. La Megillat Esther est un livre qui est tellement kadosh Et elle ne peut pas porter un nom qui est contesté. Même si on va dire que l'un des principaux personnages de l'histoire, c'est Aman, on aurait très bien pu dévoiler la Megillat Aman. Pourquoi pas ? Il y a Bereshit Teman. Il faut le faire avec Gentaman, c'est bien. Alors Esther, on l'a définie comme étant une fille très sage, très pudique, très cachée, et quelque part, et quelque chose de bizarre à dire, très obéissante. Donc quand on voit ce personnage d'Esther, et c'est comme ça d'ailleurs que tout le monde l'a défini, hein, la majeure partie des commentateurs parle d'Esther comme étant la fille parfaite. Elle est là, Ezer Kenegdo, on la voit timide, on la voit jeûner, on la voit inquiète, elle est femme. Vous savez ? Et puis d'un coup, on va avoir un autre personnage en elle, très bizarre. Elle n'a pas peur des démons, elle fait sortir sa hachède, vous savez ? Elle prend des initiatives. On lui dit, tu sais, Mordechai, il est Béchar Améler, il a le sac sur la tête, d'accord ? Et elle dit, mais pourquoi ? Prenez des habits, emmenez-lui. Mais madame prend des initiatives. Au lieu de dire, ouais, Alia, qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu ! Pas du tout. T'inquiète pas. Et en plus, on va passer maintenant à quelque chose. Donc, je reprends encore deux, trois exemples parce que ce serait trop long d'expliquer toute la Megillat Esther sur le personnage d'Esther. Mais elle organise un festin et elle trouve que ce n'est pas le moment. Elle dit, non, ben, demain, je refais un festin. Mais pour qui tu te prends ? C'est-à-dire, la fille, elle est chatsoufa. Elle est chutzpanit. D'accord ? Elle est, comme on dit en français, arrogante. Mais tu fais un festin, tu fais venir le roi. Et ils sont, maintenant, il y a Aman et le roi qui arrivent. Elle est comme ça, elle regarde. Elle dit, qu'est-ce qu'elle est ? Non, pas ce soir, j'ai pas envie. C'est quel jour on est ? Lundi, j'aime pas lundi, je veux mardi. Lama, pourquoi d'abord ? En plus, c'est une grande question. Pourquoi deux fois faire ce michté ? Lama, estimez que j'ai pas envie. La Megillat Esther veut nous faire comprendre qu'elle a pris les choses en main. C'est elle qui donne maintenant le tempo, c'est elle qui donne le rythme à l'histoire. Je comprends pas, juste avant on a parlé d'une petite fille, chnene, gentille, pas gentille, va faire comme ça, tu manges pas ça, attention tu dis ça, elle est passée à celle qui donne des ordres. On passe à une femme qui est très courageuse. Puis il y a plus un moment, on a affaire à Esther, et elle est pardanite, elle a peur, voire presque égoïste. Qu'est-ce que lui demande Mordechai ? Il lui dit, bon, il y a un décret sur nous, va voir le roi. Elle lui dit, mais t'es ouf. Je vais mourir si j'y vais. Mais on s'en fout de ta vie. Va voir le roi. Il dit, non, mais... il m'a pas appelé depuis 30 jours, quoi. Je veux dire, si j'y vais, il va me tuer. Et Mordechai lui dit, ben crève. Va voir le roi. Mais j'ai peur. Alors, il y a une discussion qui est très intéressante. C'est que Mordechai lui dit, si tu vas pas, c'est toi et toute ta famille qui allez mourir. Il n'y aura pas de souvenir de toi, Esther. Et là, Esther, elle dit, bon, alors j'y vais. Mais elle n'y va pas. J'y vais sous condition. J'y vais, si vous jeûnez tous pour moi, pendant 3 jours. Est-ce qu'on voit de la Emouna là ou on ne voit pas de la Emouna ? C'est très bizarre comme comportement. Dans la Gemara, dans Maseret Neila, Bedaf Yudzaïn, Amoud Aleph, on voit Rabbi Shimon Baruch Hay, on voyait Rabbi Reuven Astropoli à Rome, qui doit se raser la tête, s'habiller comme les goïms, manger du porc s'il le faut comme eux. Il a le droit d'entraver tous les sourires pour sauver le peuple d'Israël. Il n'a pas dit, et si j'y vais, et ça ne le fait pas, et si on me tue. Il faut sauver les enfants d'Israël. Fais-le. Il y a un soldat ici qui était avec 6 autres de ses... il y avait un groupe, je ne sais pas comment on appelle ça, pas une plouga, mais une... Bidjoukine, c'est bête. Et ils ont jeté une grenade, il s'est jeté dessus. Il n'a pas dit, et si j'explose, et mon fils le pauvre, et je n'ai pas vu grandir, et je n'ai pas vu le mariage de mes enfants, et si je saute, je vais m'éclater. Il a sauté pour sauver 6 personnes. Il a sauté. Là, on te parle de sauver le peuple d'Israël. On n'a pas à faire une tzadika, mais c'est route nefesh. Elle ne casse pas de la glace, là, dans l'histoire. Et Esther, elle a besoin de garanties. Bon, alors j'y vais. Ben alors, priez pour moi. Hein. Ça cache beaucoup de choses. Alors, sur ce, à Emet, on peut partir pendant des heures à expliquer qu'est-ce qui se passe dans la scène d'Esther, selon le commentateur, il y a beaucoup, beaucoup à dire. D'abord, elle n'a pas envie de perdre. Hein? Prophétesse, je ne sais pas. Roi Hakodesh, peut-être, mais prophétesse, je ne sais pas. J'ai pas... Je ne me rappelle pas. Esther, prophétesse, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si elle est prophétesse, ça ne va pas très loin, là. Hein, parce que cette bouzard, elle est l'OEDR. En tout cas, Esther ne vit pas un peu dans l'espoir, elle vit dans le désespoir, puis elle vit dans l'espoir. Elle se promène. Elle mange cachère ou elle ne mange pas cachère? Elle est pudique ou elle n'est pas pudique? Elle est, comment dire, jeune ou elle est vieille? Elle est belle ou elle est moche? Vous vous rendez compte que quand on arrive à elle, tout se remet en question dans la définition de ce personnage, hein.
Si elle
prophétesse. Elle fait partie des sept prophétesses.
Si elle jeûne, c'est quelque part la Léna, parce qu'elle veut se nettoyer peut-être de ses péchés.
Alors, juste une chose, j'ai une réponse pour toi qui va me revenir. Là, ça m'est revenu. Quand je comptais pas faire un cours sur la terre ce matin, hein, donc je ne sais pas préparer. Tout ce que je vous dis, c'est je vais désactiver dans ma tête en même temps que je vous parle. C'est que oui, c'est marqué effectivement qu'elle est prophétesse, mais que le lieu dans lequel elle se promène sont empreints d'idolâtres, d'idolâtrie et de démons. C'est marqué que les couloirs pour lesquels, justement, elle a peur de se lancer dedans, c'est qu'elle sait qu'elle perdra sa prophétie si elle y va. Donc elle en fait partie, effectivement, mais dans le sens où l'endroit où elle est, comme par Moshe Rabbeinu devait sortir du pays d'Égypte pour parler à Dieu, car c'était empreint d'idolâtrie là-bas. C'est marqué. Il le ramène ici aussi dans son livre. Je viens de me rappeler. Et donc ce personnage, il demande quoi? En réalité, il demande des garanties. Ce que veut Esther, c'est enseigner quelque chose d'universel. Si moi, je vais maintenant annuler le décret du peuple et que vous ne changez pas, alors j'annule un décret qui va être posté à plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. La vraie histoire du Pourim, du décret d'Aman, c'est-à-dire, je vous pose la question, est-ce que Aman a réussi? Tchouva, l'eau. Je repose la question, est-ce qu'il a réussi Aman? Tchouva, oui.
Oui, mais plus tard, on voit les 10 enfants.
Ça veut dire que le décret d'Aman a été reporté à la Shoah. Il y a beaucoup de similitudes entre la Megillat Esther, comme vous le savez, et les dates de la Shoah, les personnages de la Shoah. Et comme c'est marqué à Nuremberg, c'est le Pourim des Juifs. Ça veut dire que, oui, il y a un lien direct. Et Esther a voulu éviter ça. Elle a dit, si vous faites Teshuvah, pas vous dites simplement pour moi, si vous faites Teshuvah, et pourquoi 72 heures? C'est bizarre comme jeûne. En général, le jeûne chez nous, c'est 25 heures, c'est Kippour. Lama, 72 heures. Parce que, malheureusement, nous avions enfreint le nom de Dieu le plus puissant qui existe dans la Yadout. En judaïsme, Dieu a quatre noms connus, Yud Kei Vav Kei, qui s'écrit de façon différente. Shem Av, Sag, Ma et Ben. C'est quatre façons de l'écrire qui sont différentes. Le plus élevé de tous, c'est 72. C'est ce qu'on appelle Shem Av, Ain Bet. Et ce nom-là, il correspond à tous les mondes de réparation. Vous savez, Shem Av, c'est le plus élevé. Qu'est-ce qui peut atteindre là-bas le Shem Av? C'est quand l'assimilation arrive enfin à toucher l'âme du juif. C'est le Shem Av qui peut être touché à ce moment-là. Comme par exemple, un juif marié avec une non-juive. Son âme, elle est prise dans la clipa maintenant, et c'est le Shem Av, il est emprunt. Qu'est-ce qu'elle demande Esther? Elle dit, on va repartir à la racine. On va réparer le Shem Av. Donc si j'ai 3 jours, combien y a de jours par, combien y a d'heures par jour? 72 par jour? Non, il y a 24. 72, 3 jours. Peut-être on va à mon rythme. Parce que toi, c'est facile pour toi, mais il y a des gens peut-être qui regardent, de quoi ils parlent. Ils vont prendre pour un débile. Ils vont dire quoi? 72 heures dans un jour? Combien de jours? 3 jours. Combien d'heures par jour? 24. 3 fois 24. Vas-y, Youssef. Hazak, 72. Pourquoi 3 jours? Pour réparer les 72 heures qui correspondent justement à la précision du Shem Yud Kevavke de Yudin. C'est une raison pour laquelle Ezra et Nehemia, pour relever l'âme juive, ont convenu de lire la Torah tous les 3 jours. Lundi, jeudi, Shabbat. Lundi, jeudi, Shabbat. Le jour où on sort le Sefer Torah. Chez Lo Yé Shavua, Blish Losha Yamim, Bli Torah. Il n'y a jamais 3 jours sans Torah. Pour relever constamment la Neshama du juif et lui rappeler ses obligations en tant que tel. Et cette Nesirut Nefesh exceptionnelle de Esther Amalka finit par la dévoiler. De là, il y a énormément d'enseignements qui apparaissent sur cette personne. Esther Amalka ne veut surtout pas être connue. Elle reste dans l'ombre. Esther Amalka sauve le peuple d'Israël. Elle fait preuve d'une Messirut Nefesh hors du commun. À un tel point que le nom d'Esther, on peut se rendre compte que si c'était un nom à la base d'Abodazara, c'est devenu un nom des plus puissants et des plus merveilleux de l'histoire. C'est pour ça que Esther est arrivée jusqu'à ce qu'on appelle la Shoshana Eliona. Qu'est-ce que c'est Shoshana Eliona? C'est les 13 attributs divins. Elle a réveillé les 13 attributs divins. C'est pour ça que 661 Gematria, Shoshana. Et c'est aussi la Gematria de Esther. Esther, Gematria, Shoshana. Ce qu'on appelle la Shoshana Eliona, elle a réveillé les sphères les plus élevées d'en haut, au point de retourner une situation et de rendre une situation perdue une situation de gloire. Pas simplement que tout s'arrête. Comme tu dis, arrête l'hémorragie. Mais arrêter une hémorragie, ça ne veut pas dire arrêter la maladie. Ça veut dire arrêter les dégâts. Esther est capable de rendre une ronce, une rose. Mais ça, Koach a à dire chez là. Lama, pour toutes ces raisons-là. Et c'est là que je voudrais atteindre l'apogée de ce que je voulais partager avec vous. Dans la vie, il faut être pudique comme Esther. Esther, si elle était vivante en 2024 et qu'elle devait s'adresser à toutes les peuples d'Israël, d'après vous, quelle serait, selon son identité, la première chose qu'elle demanderait? La première. Oui, mais quelle tzniout? C'est sûr que c'est la tzniout. Mais quoi?
La bouche?
Non. Retirez-vous des réseaux sociaux. Arrêtez avec vos photos. Arrêtez. C'est ce qu'elle hurlerait. Pourquoi elle peut le dire, elle et pas les autres? J'avais 80 balais. J'étais plutôt verdâtre. Je me suis caché. Je suis la reine la plus réputée. J'ai un livre à moi toute seule. Je fais partie des choses les plus élevées. Je suis la plus grande des femmes juives. Madame Omrim. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. J'ai laissé Dieu me dévoiler. Je ne suis pas parti me dévoiler. J'ai toujours su que Hachem est avec Zivugim. Je l'ai fait. Maintenant, pourquoi elle s'adresse à nous? Tu es dans l'assimilation. Tu n'as pas trouvé de mari pour te marier. Tu t'es marié avec un non-juif. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tarzor Bitshuva. Tarzor Bitshuva. L'enfant qu'elle va avoir à Hachverosh, c'est l'enfant qui va permettre aux juifs de revenir en Eretz Israël. Tarzor Bitshuva, prends ce que tu as fait. Si tu es rentré malheureusement dans l'assimilation, n'oublie pas que quoi que tu fasses de ta vie, même si tu es très loin, tu ne manges plus kasher, Adbat Israël. Tu peux changer. Même si tu as changé de nom juif pour un nom de non juif, tu peux changer. Tu peux récupérer les choses. Esther s'adresse à toutes les identités, à toutes les situations. En makom shelo. Pour ceux qui disent, ouais, mais là, je vis dans un endroit, je suis juive. Ça m'est souvent arrivé des gens qui m'écrivent, je vis en Haute-Savoie, je vis en Basse-Savoie, je ne sais pas où ça va. Des lieux comme ça que je ne connais pas. Je vis à Montreuil-les-Benoît, des choses bisons comme ça. Et alors, il n'y a pas de juifs là-bas. Non. Ben, dans le château d'Esther, il n'y avait non plus pas de juifs. Il y avait Daniel, etc. Il n'y avait pas de juifs. Qu'est-ce qu'elle mangeait? Ben, elle mangeait des légumes. Elle mangeait, mais elle ne mangeait pas tarif. Et c'est de là qui dit ça. Il y en a qui disent, moi j'ai mangé du porc, moi j'ai mangé des crevettes, moi j'ai mangé. Il y en a qui disent que Esther aussi, elle le faisait.
Il y a une chita qui dit ça.
Baruch. Pourquoi? Parce qu'Esther, c'est l'entité de toutes les femmes juives. Et c'est elle qui va sauver le peuple d'Israël. Pour t'apprendre que qui que tu es, quoi que tu sois, et où que tu sois allé dans ta vie, est-ce qu'il y a pire pour une juive que de rentrer dans les draps d'un non-juif et d'aller avec? Dans la Torah, c'est ce qu'on se considère comme étant la chose la plus grave de toute la Torah. En yoter chamour mise. Viens Esther et lui dit, n'oublie pas que tu es une bâtie Israël. N'oublie jamais. N'oublie jamais qui tu es. Alors si au moins tu as fait ça avec ton enfant, il est né de cette union, n'oublie pas que lui au moins il est juif. N'oublie pas qu'il est juif.
Est-ce que l'éducation qu'elle a donnée à Koresh, c'était une éducation juive?
Vadaï.
Parce qu'on a...
Vadaï. Tchouvaken.
Okay.
Esther représente l'identité de la Teshuva la plus mouchelée. Mais personne. Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Il y a marqué comme ça dans le Tehillim. Rabot mahashavot belev ish va atzat Hashem itakum. D'accord? Ça veut dire quoi itakum? Hi, c'est he, yud, alef. C'est connu. Si la personne a dit, j'ai pas étudié la Torah parce que j'étais pauvre, he, il vient. C'est he, il est. Est-ce qu'il est plus pauvre que lui? Non. Si la personne dit, j'étais trop beau gosse, Hashem, c'est ta faute. Je vais me crever un neige, noir. Regarde la beauté. Je vais passer, les filles me regardaient, je deviens fou. À cause de ça, j'ai eu l'addiction des femmes. Donc j'ai pas pu étudier la Torah. Qui c'est qui sort Yosef Hatzadik? Et les anges, j'ai dit, Chlikam Shoum, rien comme tu es moche à côté de lui. C'est bien. Yosef Hatzadik, l'Olam Lohata, Tzadik et Sodolam. Et pourtant, il était plus beau que tous les autres hommes. Et s'il dit maintenant, Hachem, j'ai réussi toute ma vie. Je vais faire de l'oseille, moi. Non, je viens du chantier. Je t'achète toi et ta mère. Ouais. C'est la personne qui dit comme ça, qui vient, Rabbi Elazar ben Kharson, qui était l'homme le plus riche de l'histoire, contrairement à ce que veulent enseigner les autres. Rabbi Elazar ben Kharson était tellement riche qu'il possédait 1000 villes. 1000 villes qui étaient à lui. Tout est à lui. Et pour son argent de poche, comme il n'avait pas un grand porte-monnaie, la Gemara nous dit qu'il fallait 1000 galères de pièces d'or. 1000 galères. Galères, tu sais, les grands bateaux. Tu les remplissais d'or, c'était sa petite monnaie personnelle. 1000. Donc, ouais, et pourtant, il étudie la Torah 24 sur 24, 7 sur 7. Non. Parce que maintenant, tu dis une femme. Ouais, mais bon, j'ai vécu une époque spéciale. T'as été reine, toi? T'as été reine sur le monde? Internet? Sur le monde entier? Moi, j'ai été Internet. Et pourtant, j'ai pas commis une seule erreur. Ouais, mais bon, il fallait que je trouve un khatan, je prenais de l'âge. 80 balais, je me suis marié, ça te va? Ouais, mais j'étais pas assez belle. Si t'es dans la kdoucha, tu auras un hout de chesed qui viendra pour toi. Esther donne des leçons à tout le monde. Si une femme, après sa mort, elle dit, ouais, mais faut me comprendre, j'étais désespéré, j'avais pas ceci. Il y a Esther, elle dit, t'étais pire que moi, toi. Dans la vie, une femme doit être tsnoua. Quand elle doit prendre les rênes du monde, il faut qu'elle les prenne. Quand elle doit prendre des initiatives pour sauver le monde, qu'elle le fasse. C'est pas bien de se cacher derrière des choses qui en réalité finissent par t'arranger. Et c'est pour ça qu'Esther, du début jusqu'à la fin de la Megillah, on la voit prendre tous les rôles. C'est même elle qui donne des conseils à Ahasvéros. T'es pas conseillère. T'es passé de « il m'a pas appelé, j'ose pas y aller, il va me tuer » à « en plus ça, il y a un truc que vous savez pas, dit l'Agmara, truc de ouf. » Ah ouais, non mais attendez, je vous ai oublié, je voulais vous dire. Elle est née à Marrakech. Ah non mais attends. Quand elle dit Aïch Ara Azé, et qu'elle montre du doigt la personne qu'elle montrait.
Amen.
Qui a-t-elle montré? Écoutez bien ce que dit la Gemara. Vous allez voir combien elle est exceptionnelle, Esther. Quand elle a dit Aïch Ara Azé, elle a montré Ahasvéros. Ahasvéros, il fait hein? Et l'ange Gabriel, il a fait chut, Aman. Donc, qui elle voulait démontrer, Esther? Elle était en train de dire au roi, c'est toi le pourri de ta race maudite, là. C'est toi, Ahasvéros, qui a donné ton sceau, c'est toi qui es derrière tout ça. L'ange, chut, Esther, chenoua, calme-toi, tu es ouf, quoi. Esther, aïe, chenoua, si tu parles avec le roi, quand même, oh, tu te calmes, on est caché, hein? Comme ça, disait elle est venue montrer Ahasvéros. Et l'ange, il a mis, hop, Aman. Il dit, pourquoi tu fais ça? Elle a peur de rien, Esther. Mais je comprends pas, juste avant, tu avais peur. Le roi ne m'a pas appelé. Et là, tu l'accuses en public. En plus, devant Aman, ma courée, là, Esther. Esther prend des initiatives. Et si toute cette Megillah nous arrive, sachez une chose. Pourquoi les femmes sont tenues d'écouter la Megillah d'Esther? Parce qu'elles étaient dans le miracle. Mais parce que Esther, c'est celle qu'on ferait sortir chaque fois qu'une femme juive meurt. On la fait sortir du Beit Din d'en haut. Et on la compare. Qu'est-ce que toi, tu as vécu que Esther n'a pas vécu? Explique-moi. Pourquoi j'ai dévoilé Esther et toi tu seras oublié? Aval si Bezrat Hashem, tu casses de la glace, tu as les cheveux couverts. Vous rendez compte, la reine, elle est mariée avec Mordechai. Elle s'arrangeait pour toujours avoir les cheveux couverts, toujours être pudique. On lui présentait des robes faites de lin, de soie, de diamants. Il n'y avait pas les épaules, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Elle disait, j'aime pas. Mais quelle femme, t'es reine une fois que t'es reine? Bon, bah écoute, ça y est, je me suis marié, je suis avec lui, je suis la reine. Dis-moi, c'est facile de nager dans l'eau sans être trempé? C'est impossible, une fois que t'es reine. Esther, que ce soit dans les royaumes les plus exquis, et on parle de Ahasvéros Rabotai, il jetait les kélim d'or et d'argent à la poubelle. On faisait pas la vaisselle chez lui, tellement il était riche. Et qu'est-ce qu'il a proposé à Esther? Atratsi Amalchut. Toute ma richesse, tu en as la moitié. Mais l'argent rend fou. L'argent l'a pas rendu folle. Le pouvoir rend fou. Le pouvoir l'a pas rendu folle. Elle est restée fidèle à Kadosh Baruch Hu. Et combien même il y a des parchanim qui viennent nous dire qu'éventuellement, elle n'aurait pas mangé kasher. Miyad omrim aval hazra bitchouva. Or, je pose la question, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me racontes qu'elle a fait tchouva? La réponse est simple. Parce qu'elle représente toutes les filles d'Israël. Et si elle n'avait pas fait tchouva, à qui elle s'adresserait? Qu'à celle qui était née dans la Torah. Velchen Esther. Son nom, c'est un nom d'Avodazara. Et c'est pour ça qu'on dit que Esther, hi, Adassa. Adassa, c'est un nom juste, c'est Myrte. On lui dit que c'est Adassa. Pourquoi? Parce que derrière cette identité qu'elle a, Esther vient nous apprendre quelque chose avec laquelle je voudrais finir. Elle dit à toutes les filles d'Israël, même si tu crois que là où tu es arrivé, tu ne peux plus faire marche arrière, sache que tu n'es que dans des mises en scène par le Créateur du monde. Enlève ton masque et dévoile-toi. Dévoile-toi en tant que juive, en tant que reine, pour sauver ton peuple. Parce que chaque femme dans chaque foyer peut sauver son peuple. Chaque femme dans chaque foyer peut relever l'étendard du nom divin. Et pour cela, il y a 100 conditions. Tu n'as pas besoin de dire « je suis fatigué, je suis vieille, j'en peux plus, il faut me comprendre ». Choum dava. Esther, elle sait s'adapter selon une logique de vie. Là, il faut que je sois pudique. Là, il ne faut pas qu'on sache que je suis juif, je vais faire semblant de manger ta ref. Ah, ok. Là, c'est risqué. Si j'y vais, qu'ils font pas de chouva, je fais un trou dans l'eau. Là, il faut que j'organise quelque chose, je prends l'initiative. Là, il va falloir que je dévoile qui est le pourri. Maintenant, je vais demander qu'il me donne la maison d'Aman pour aller jusqu'au bout. Chose incroyable chez elle. On voit le parcours d'Esther, il est impressionnant. Il est impressionnant. Il est impressionnant parce qu'il comporte toute l'histoire de l'humanité. Chez les juifs, comme chez les non-juifs. La Megillat Esther, c'est quelque chose de très spécifique. Parce que cette femme qui a une Megillah en son nom, en tant que juive, cachée derrière une entité et une identité qui correspond à tout le monde. Chacun disait, mais non, elle est chez nous, elle. Elle n'est pas juive. Vous savez que Hachverosh, quand il lui a dit, quoi, juive, t'es juive ? Je m'en quinefeuge. Tu dis qu'il était à Moum. Mais je t'ai jamais vu. Et là, ça rejoint un enseignement de Rabbi Moshe Ederi Zatzal, qui était de Casablanca, la Vachalom, au Rav. Soto Egen Alechem Ve'alim Ve'alkolam Israël. Rabbi Moshe Ederi, il toujours disait, la grandeur d'un vrai tzaddik, c'est quand lui seul le sait et Dieu le sait, mais personne ne le sait. C'est pas quelqu'un qui montre qu'il est tzaddik. Quand quelqu'un est tzaddik, et Esther, personne ne pensait qu'elle était juive. Aman, il était toute la journée dans le château en train de voir, de regarder, en train d'épier comme un rat. Ouais. Mais malgré tout ça, je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si tu vois quelqu'un, tu sais que lui, il est rabbin. Mais non, il n'est pas rabbin. J'ai jamais mis le téfiline, j'ai jamais vu manger cachère, j'ai jamais vu. Impossible, jamais faire la mida, c'est pas possible. Esther faisait sa mida tous les jours. Esther faisait Birkat HaShachar tous les jours. Qu'est-ce qu'elle a fait comme Teilim? Amnatzach la Yelet, HaShachar, Nachon, faisait Teilim tous les jours. Aïta Yodat, Kol la Torah Balpe. Toute la Torah la connaissait par cœur. Mais on l'a jamais vu étudier la Torah. Zakor Shel Hatzniut. Raconte que Rabbi Shimon ben Shattach, Alav HaShalom, Shimon ben Shattach, on lui a dit dans le ciel qu'il mourra, prochainement il mourra. Et que quand il partira de ce monde, il prendra la place d'une femme qui a l'oreille coincée dans les gongs des portes du Géinam. Hachak Yamchou a les gongs du Géinam, pourquoi? Pourquoi son oreille était coincée là-bas? Ça brûle, hein, les portes du Géinam. Et elle hurle, elle hurle. Elle dit, quand elle a fini son tikkun, c'est toi qui prends sa place. Rabbi Shimon ben Shattach, pourquoi? Parce qu'il a fait un neder, il a tardé à le faire. Quel était le neder? De tuer les 80 sorcières de la ville d'Ashkelon. Comme il a tardé, il a dit que dès que je le fais, dès que est venu, et il n'a pas fait. Il s'est empressé qu'on s'est réveillé le matin, il a dit, ouh, on est fâché contre moi à cause du neder, fais très attention, faites un neder, vite le faire, ne tardez pas. Mais la gamine pose la question, elle dit, mais cette femme dans le Guéhenna, qu'est-ce qu'elle a fait? Hazal, ils disent, parce que cette femme, elle jeûnait de Motse Shabbat, tous les lundis, tous les jeudis, plusieurs fois par semaine. Et alors? Si elle jeûnait, c'est bien. Il n'y avait pas une personne dans la ville qui ne savait pas que c'était une tzadika qui jeûnait. Elle passait son temps, non, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Non, je jeûne, je jeûne. Je jeûne pour le peuple d'Israël. Au lieu de recevoir un salaire, elle a reçu une punition. Elle a dit, chaque oreille qui a entendu ta frime, ton orgueil de raconter ce que tu fais, il bête au tard. Lama, si tu jeûnes, que tu as besoin de le dire. Que tu as besoin de le raconter à tout le monde. Que tu as besoin de dire, tu lis les livres des Télim tous les jours, que tu as besoin de... Madame Saper, elle disait, moi, je donne de la tzedaka, et c'est moi qui l'ai construit, et c'est moi qui l'ai fait. Altit gaé, baiser. Ne t'enorgueille pas. Esther Amalka, pas une fois la cherche à se dévoiler. Vous apprendrez que plus tu te cacheras, et plus on te dévoilera. Plus tu es humble, plus Dieu te dévoile. Plus tu te caches, et ainsi de suite. Oui, ben, c'est la paracha d'Achon. Ben, Ikra, Aleph Zeira. D'Achon, qu'est-ce qu'il a fait? Étant donné qu'il a écrit en petit, il restait un peu de Dieu. Ouais, et bien, qu'est-ce qu'il a fait Hachem avec Dieu? Il lui a déposé sur le visage, il est devenu lumière. C'est là. C'est un pour lequel nous devons tous prendre exemple sur cette grande sadika qui englobe à elle toute seule l'entité de toutes les femmes du peuple d'Israël pour leur dire que Béhémeth, ne croyez pas que c'est les hommes seuls qui peuvent réussir à sauver le monde. La femme et l'homme ensemble peuvent agir et en conséquence. Oh, j'ai retrouvé des écrits de Golda Meir où elle définissait exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est fou, hein. Elle a, et c'était une femme qui a... Tu penses à elle? Je crois que c'est la réincarnation d'Esther. Golda Meir. Ah oui, complètement. Thatcher aussi était une femme de fer. Hein. Il y a des femmes qui, Béhémeth, ont pris les choses et qui ont été capables, Béhémeth, de mener à bien l'histoire. Mais c'est assez exceptionnel dans ce domaine. Parce que la réussite, c'est la famille. Chez une femme, la réussite, c'est la famille. Comme par exemple ici, on fait le cours pour elle. Voilà, les enfants sont là, les gens sont là, on n'oublie pas. Pourquoi ? Pourtant, elle était dans les montagnes du Maroc, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. On est en 2024 et on parle d'elle, Lama. Parce que plus tu restes caché, plus tu permets à Dieu de te dévoiler. Mais si tu te dévoiles, il n'y a plus rien. Comme je dis souvent, quelqu'un qui se monte, tu ne peux pas le monter parce qu'il est déjà monté. Mais quelqu'un qui accepte de rester en bas, alors Dieu le dévoile. À l'image du Aleph, le Zohar Kadosh, dans le Tikkuné HaZohar, nous dit que le Aleph, il n'a pas osé se présenter devant Dieu. On dit, pourquoi tu ne te présentes pas ? Il a dit, bah, si le taf qui est plus grand que moi, il fait 400, qui est la première lettre du mot Torah, tu ne l'as pas accepté pour commencer ta Torah, comment moi, le Aleph, je peux venir ? Alors Dieu lui a dit, je commencerai les 10 commandements par toi, Anochi Hashem Elokecha. Et le deuxième, c'est où ? Je dévoilerai le Aleph, Esther. Aleph, Sata. Je le dévoile maintenant. Son voilà. Baruch Adonai le Olam. Amen. Vous avez un shiur, un deuxième shiur pour ceux qui veulent, qui sont intéressés, sur les médecines douces. Est-ce que c'est permis ou pas ? Les médecines chinoises. Un sujet qu'on m'a demandé. Donc pour ceux qui veulent, c'est dans un instant. Shabbat Shalom.